Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Le locataire intérieur. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. De ma fenêtre, je regarde la neige. Elle a tombé cette nuit à gros flocons, à tout recouverte d'une épaisse couche blanche. Maintenant, le ciel est gris. L'arbre au milieu de tout ce blanc n'est plus qu'un trou noir. Seul, au milieu du champ, il fait tache. Il n'y a pas que lui qui fait tache. Ce sol lisse est imprimé des traces de chaussures d'homme et des taches rouges sur ce blanc, cela fait désordre. Cette nuit, j'étais très fatigué, trop fatigué pour les enlever. Il faudra que je le fasse. Je n'en ai pas le courage. Il fait trop froid. Chez lui, après avoir étudié, il met son petit poste de radio en marche, en sourdine. Mais comme il capte mal les ondes, il place plutôt son temps à lire. Un rêve vient souvent le visiter. Il est à la fenêtre et voit qu'il a neigé. Dehors, c'est un champ tout blanc avec un tronc d'arbre noir. Ce blanc et ce noir, cette forme biscornue, noir rend le paysage lugubre. Il voit aussi des taches de sang sur la neige. Cela le gêne, ça fait sale. aimerait les effacer, mais il sort toujours de son rêve angoissé. Il n'arrive pas à savoir pourquoi son angoisse encore plus de ne pas savoir pourquoi. Un matin, il entend des bruits dans son allée, des pas, on frappe à des grands coups. Des cris. Intrigué, il va ouvrir. Les voix qui se battent, son voisin de palier qui se débat avec trois policiers en uniforme. Même dès qu'il voit Frédéric, avec de grands coups secs, arrive se dégager et court vers Frédéric.
Ne me laissez pas aller, me tuer. Ils n'ont pas le droit. Je suis des leurs.
Le policier arrache l'œuf de Frédéric et le pousse dans les escaliers. Frédéric, surpris, leur crie.
Où nous menez-vous ?
Le policier lui répond.
Dans le sort de ce pays de cauchemar. Tu n'as pas envie de sortir toi aussi de ce pays? Si tu veux, on te fait te mettre de l'autre côté. Si tu veux.
Et l'homme se met à rire d'une façon diabolique. Frédéric les entend descendre. Ils sont sortis de l'allée, puis c'est le silence. Apparaît en bas de l'escalier la tête de la logeuse qui tend le cou pour le voir. Frédéric entre chez lui. Il est en sueur et ne sait que penser de tout ceci. Ce n'était que ses cours à l'université, il quitterait bien tout ça. Une nuit, il est réveillé par des coups que l'on donne en cognant contre une porte. Et des cris. Comme une personne que l'on bat. Effrayé, il se lève et va ouvrir la porte du palier. Non, ça ne vient pas du palier. Il s'aperçoit que ces bruits, cris, sortent de derrière la porte condamnée. Et à chaque fois qu'il y a un coup dans la porte, ça la fait vibrer. Il y a quelqu'un derrière cette porte ? Pas de réponse. Et les cris et les bruits continuent. Frédéric essaye d'ouvrir la porte en tournant plusieurs fois la poignée et en essayant d'ouvrir avec des clés. Il a peur, et en même temps il veut aider, car il sent qu'une personne est en danger. Les cris deviennent horribles. On dirait que l'on égorge une personne. Frédéric essaye d'enfoncer la porte avec son épaule. Mais elle ne bouge pas. Les feux essaient encore une fois. S'est arrêté dans son élan car il vient de voir que sort du sang. Oui, un liquide rouge qui sort de derrière la porte. Et ce doit être du sang. Puis plus rien, plus de bruit. Frédéric est effrayé, se superpose le sang de la neige et celui-là. L'angoisse revient, beaucoup plus fort. Il sent une grande douleur au poignet gauche. Sa bouche se sèche, sa vue se trouble, ses jambes ne tiennent plus. Tout tourne. Il tombe, noir, puis blanc, puis rouge, puis bleu, puis lumière à flèche, des échos, puis noir, puis détente. Il reprend ses esprits, allongé sur le plancher. La lumière du jour a rempli la pièce. Il se lève, courbaturé. Mais bien, comme une personne qui a passé un séjour en maison de repos, il se dit qu'il a dû rêver tout ça et va se coucher. Plus tard, sa logeuse lui apporte le café. Une fois qu'elle est partie, il se lève. Se lave, et s'habille. En prenant son cartable à terre pour aller à l'université, il voit sur le plancher, vers la porte condamnée, de nouvelles taches de sang. C'est pas un rêve. Que faire? Aller à la police? Vu comme la police réagit ici, vaut mieux pas. Alors quoi? Chercher un appartement? Les gens se méfient. Ils sont méfiants. Ils ne veulent pas louer à un étranger. Vais-je vivre à côté d'un cadavre, peut-être? J'ai peur, mais je ne dois pas le montrer. C'est peut-être pour me faire partir. Tout ça. Un jour, Frédéric, en sortant de l'université, il croise une jeune fille dans les 20 ans, habillée d'une gabardine grise. Elle est blonde, les cheveux longs, et pâle, pâle comme une malade. Il est ébloui par elle, malgré sa pâleur. C'est une douce apparition dans ce monde gris, triste. Il se met à la suivre. Tout d'un moment, elle s'arrête sur un pont et se penche pour regarder l'eau. Il se met à côté d'elle et en fait autant. Une eau grise, épaisse, laide. Il se met à dire en regardant l'eau, comme c'est laid. Elle lui répond en regardant l'eau. Oui. Il lui dit, comme cette ville. Il la regarde. Elle le regarde et sourit. Il lui dit, « Je vous paie un café ?»« Oui, je veux bien. » Et elle le suit de l'autre côté du pont. Il se trouve un café plutôt bistrot. Ils y rentrent. Il y a du monde, mais ils réussissent à trouver une place tranquille près de la fenêtre. Ils se sont assis, l'un en face de l'autre. Ils voient de la fenêtre un bout de vue, la rue pavée et un coin aussi où se trouvent amarrées les péniches. Il lui dit, on se croirait dans un port. Un garçon s'approche, un gros homme avec un tablier bleu et une casquette grise. Il commande de café. Il lui dit, je m'appelle Frédéric Lemort. Moi, Iphigénie. Il lui demande, vous habitez la ville? Oui, depuis toujours. Moi non, je viens d'arriver. Je suis ici pour mes études. Je vis dans une pièce que j'ai louée à une logeuse, une femme très antipathique.
Viens t'asseoir avec nous.
Et vous? Je vis chez mon grand-père, un vieux monsieur, ancien professeur de sciences humaines. En ce moment, il fait des recherches sur la ville. Son histoire, ses habitants. Il s'appelle Frésidis. Il est malade. C'est son travail qui le fatigue beaucoup. Je vois qu'il arrête, mais il ne veut pas. Il boit une gorgée en silence. Il voit que dehors, le soir commence à tomber. Elle lui dit, je m'ennuie dans cette ville. Il lui dit, pourquoi ne partez-vous pas? Je ne peux pas de moi-même. J'ai connu la personne qui était dans votre chambre avant. Avant vous. Comment cela? Je ne vous ai pas donné mon adresse. Tout se sait ici. Et puis les étrangers sont si rares.
Salut, comment ça va?
Elle savait trop de choses, vous savez. Mais elle n'a pas disparu.
Viens t'asseoir avec nous.
Où est-elle? Elle est morte. Vous voulez sa photographie?
Salut.
Oui.
Salut.
Elle ouvre son sac et en sort un portefeuille en cuir marron. L'ouvre, il lui tend une photo, puis le quitte précipitamment. Il regarde la photographie. C'est une jeune fille blonde, de beaux cheveux longs, le visage clair. Elle porte une robe claire aussi. Elle est de côté, mais son visage fait face à l'appareil. Il la trouve très belle et est même troublé par son visage. Qui pourrait en vouloir un aussi joli visage? Dans la nuit, il rêve à la jeune fille qui lui sourit. Le lendemain matin, en sortant de chez lui, la porte de l'appartement de la chambre d'en face de chez lui s'ouvre. Et apparaît sa logeuse avec un homme habillé en uniforme de la police. Il est grand, fort, dans les 50 ans, une tête bien carrée, les cheveux bruns courts, de grands yeux bleus et des lèvres gourmandes. La propriétaire, qui a les clés de l'appartement à la main, lui dit « Frédéric descend les escaliers tout en les entendant. Je suis bien heureuse que ça vous ait plu. J'aurais plus tranquille de vous avoir dans la maison.
Oh ça, ne vous en faites pas. Je serai votre chien de garde. Alors, nous signons le bail.
Entre amis, je vous fais confiance. Cela fait si longtemps que nous nous connaissons. Voici les clés. »
Frédéric sort de l'immeuble en se disant qu'il sera bien surveillé. Après ses cours en fin d'après-midi, sur le chemin du retour, il voit devant lui la jeune fille d'hier. Il la croise et lui dit « Bonjour, bonjour. » Elle continue à marcher d'un pas rapide. « Vous avez quitté bien rapidement hier. J'avais affaire. Je suis très prise, vous savez. Nous ne pouvons pas nous parler. Seulement si vous acceptez de venir chez mon grand-père. » Il lui dit « Mais, je vous invite, bien, mais je ne veux pas déranger, vous ne me dérangerez pas du tout. Grand-père sera très heureux d'avoir de la visite, bien, et il la suit. »
C'est pas pour acheter, monsieur. Je cherche un emploi.
Thank you.
dans une rue aux maisons un peu plus cossues qu'ailleurs, mais toujours aussi tristes, elle le fait entrer dans une allée. Elle est sombre, mais les escaliers sont de pierre. Il monte jusqu'au troisième étage. Et là, elle va sonner à une porte. Ils attendent quelques minutes. C'est un petit homme maigre, le visage osseux, cheveux blancs. Porte une robe de chambre en soie bordeaux. Grand-père, je me suis permis d'inviter un ami, Monsieur Frédéric Lemort.
Enchanté, jeune homme. Je vous en prie, rentrez.
Ils entrent et ils ferment la porte. Couloir sombre, tapisserie bordeaux. Il ouvre une porte du couloir pour les faire entrer au salon. Pièce sombre, les volets sont fermés, lampes et plafonniers éclairés, meubles 1900.
Asseyez-vous.
Ils vont s'asseoir sur des fauteuils. Ils sont autour d'une table basse.
Je suis très heureux que ma petite fille m'amène un de ses amis. Nous n'avons pas de visite.
Frédéric est étudiant.
Et en quoi ?
Études de lettres.
C'est bien ça. Moi, je faisais des recherches. Et je continue. Mais c'est difficile. Maintenant, je fais des recherches pour moi. Mais sur la ville. Ça n'avance pas. Personne ne veut m'aider. Et je piétine. Même la mairie refuse de m'aider. J'ai l'impression que l'on veut pas que je découvre quelque chose de secret. L'on me cache des documents. On les falsifie même. Comme si l'origine de la ville cachait quelque chose de tabou, d'horrible, peut-être. Mais j'y arriverai. Je trouverai la clé de ce mystère. J'ai ma petite idée. Dans les armoiries peut-être de la ville et le sous-sol de la cathédrale. Enfin, nous verrons. Et vous? Vous n'êtes pas d'ici?
Non.
D'où?
D'où? Excusez-moi, mais j'ai un trou de mémoire.
Ah, je vois. Vous restez à manger avec nous. Nous parlerons des Mérovingiens. C'est aussi mystérieux que cette ville.
Et ils passent tous les trois la soirée ensemble agréablement. Puis Frédéric s'en va. Avant de partir, il promet de revenir. La jeune fille, en guise de revoir, lui donne un baiser sur la joue.
Thank you.
sent le pipi de chat. Il appuie sur la minuterie qui éclaire une lampe jaunâtre contre le mur au-dessus des boîtes aux lettres de toutes formes. Il monte les escaliers en pierre qui sentent l'humidité. La rampe aussi, mais ne s'en sert pas. Premier étage, il y a deux portes. Il va vers celle de droite pour sortir son trousseau de clés et ouvrir la porte. Il est clair. Une pièce au mur gris, une fenêtre où est tendu en gris, en guise de rideau, un chiffon rouge, un lit en face dont les draps et les couvertures sont défaits, lampe de chevet sans âge, une table en désordre où se trouvent des restes d'un petit déjeuner. Sur une petite table contre le mur, à côté de l'évier, un réchaud, une armoire, sur une chaise des vêtements en désordre, des tristes, minables et sales. Il regarde le sol, c'est un îlot à fleurs délavées. Sous l'évier se trouve une caisse à chat et une assiette sale. Le chat, justement, le voilà. Il lui a reniflé les pieds, puis s'en va à l'autre bout de la pièce. Il sort de son manteau qu'il avait mis contre sa poitrine un paquet. Quelque chose enrobé avec du papier journal. Il met le paquet sur la table. Quitte son manteau et foulard qu'il met sur une chaise. Puis, attend. Quelques minutes plus tard, il a éteint la lumière. L'on entend des pas dans les escaliers. Un bruit de clé dans la serrure. D'un bond, il va derrière la porte. S'est ouverte et refermée. Et au moment où il se retourne pour entrer chez lui, il voit devant lui la hache en l'air et lui donne un coup sur le crâne. Ça a été si vite que l'homme n'a pas pu se défendre. Malgré qu'il soit à terre, il continue à donner des coups, des coups de hache. Au hasard, il est en sueur. Le sang jaillit. Il jaillit de partout. Frénésie, une jouissance l'envahit. Il donne des coups.
déterre le cadavre et donne une véritable mare de sang. Véritable mare de sang. Puis, au bout d'un moment, une fatigue l'envahit. Il s'arrête de cogner. Il est en sueur. Le manche de son par-dessus sont en sang. Il prend la hache. Il essuie grossièrement avec une chemise qui est sur la chaise. Et la renroule dans son papier. Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, le locataire intérieur, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.